mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. » Suite de la première partie, pages 50 à 54. Une même atmosphère reliait cette famille et la maison de retraite que Thérèse avait quittée. Étrange similitude. Tombant de Charybde dans Scylla, elle en déduisait ne pouvoir échapper aux gifles acharnées des vents contraires. L'aigreur ne la quittait plus, ni ses remarques désobligeantes, les propos acerbes qu'elle assénait à la mesure de ses propres blessures. Elle se défendait bec et ongles avec l'énergie du désespoir, et ne trouvait de répit qu'à l'église. Camouflant sa hargne sous les conventionnelles banalités auxquelles se réduisent nombre de rapports humains. Mais un soir, dans sa chambre, la lecture de l'Apocalypse dans sa Bible en braille la foudroya. Elle prit conscience de l'hypocrisie de son double langage et contemplait la vérité nue de son état d'âme, cet arlequin aux deux visages. Duplicité dont elle dénonçait la décevante pratique dans cette famille chrétienne. « Seigneur, si tu reviens, je suis perdue, » pensa-t-elle. « Mais que fallait-il ? Courber le dos ? Continuer à se battre ? Comment réagir devant l'injustice ?» Thérèse pouvait prétendre à une allocation compensatrice dont bénéficiaient les handicapés aux revenus limités. Pour en évaluer la pertinence, un inspecteur vint la voir. Un lundi, jour de lessive pour Thérèse qui s'occupait du linge de la maison. L'inspecteur la rencontra devant un tas d'habits. Quelques jours plus tard, il repassa sans prévenir à midi, l'heure où Thérèse balayait toutes les pièces. L'allocation qui lui aurait permis l'accès à un logement ne lui fut pas accordée, car elle présentait tous les aspects d'une travailleuse. Elle percevait donc un salaire. Il ne lui restait qu'une petite allocation issue de la loi Cordonnier, dont elle ne voyait pas la couleur, puisqu'elle arrivait sur le compte de sa logeuse, qui ne la lui rendait pas. Où trouver la volonté de Dieu? Dans quelle voie cheminer pour obéir? Fallait-il subir? Lutter? Ce dimanche-là, l'épouse du pasteur la prit à part pour lui demander comment se passait son séjour. « Pas très bien. » Elle lui expliqua en détail les conditions de son accueil. Le ménage, le linge, la volaille, l'absence de rémunération, l'inspecteur et son refus. La semaine suivante, le pasteur frappa à leur porte. Après sa visite, la dame monta dans sa chambre, fouilla un tiroir, et puis descendit pour jeter l'argent de son allocation à la figure de Thérèse. « Les voilà, vos 50 francs !» Thérèse tenait dans sa main droite un stylo et conduisait un guide en carton de l'autre pour garantir l'horizontalité des lignes. Son écriture, faite de gros caractères, traçait des lettres dont elle avait gardé le souvenir du dessin. La boucle du L, plus haute que celle du E, un trait droit pour le D suivi d'un demi-cercle, le dessin du O en cercle complet. Des souvenirs de l'école primaire. Bien sûr, elle ne pouvait pas se relire et ne se fiait qu'à son application minutieuse. Elle adressait cette lettre à Monsieur et Madame Le Boulanger, souhaitant passer des vacances chez eux. Une simple lettre de quelques mots qu'elle avait posée dans un coin du placard avant de la poster. Dans ce courrier, elle expliquait que vivre ici n'était plus possible. Elle ne savait pas qu'on fouillait ses affaires. « C'est du beau, ce que vous faites !» Tenant à bout de bras la lettre, sa logeuse la secouait sous le nez de Thérèse. Puis elle déchira ce courrier, que sa rage réduisit en tout petit confetti. Thérèse en écrivit une autre, postée dans l'heure. Monsieur et Madame Le Boulanger lui répondirent qu'il n'y avait aucun problème à ce qu'elle vienne, ce qui hâta sa décision. Le dimanche suivant, avant le culte, le pasteur convoqua Thérèse dans son bureau. Durant cet entretien, il souligna qu'en dehors des personnes qui l'hébergeaient, ses propres attitudes méritaient d'être corrigées, et qu'elle devait s'en repentir et demander pardon à l'assemblée. Elle savait devoir répondre de ses propres erreurs sans préalable et ne pas juger celles des autres. Elle confessa devant tous les frères de l'assemblée ce dimanche-là qu'elle avait péché contre le Seigneur et l'Église parce qu'elle participait à la Sainte Cène, alors qu'en elle régnait rancune et animosité. En fin de journée, le pasteur la conduisit à la gare. avant qu'elle ne monte dans le train où s'engouffraient les voyageurs, il entoure son visage de ses mains, embrasse son front et lui dit d'une voix posée « Thérèse, vous aurez une grande bénédiction ». Puis il tourna les talons et disparut à contre-courant d'une foule qui le grignota et finit par l'avaler. Monsieur et Madame Boulanger vinrent la chercher à son arrivée à Nantes. En sortant du train, elle longeait le quai avec ses odeurs de métal, de vapeur, de gens pressés. Le léger vent qui balayait la gare ne portait pas cette saveur de sel marin qui l'avait surprise à Cognac. C'était un mois d'août qui respirait la liberté. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester ici, ad vitam aeternam. Mais elle ne voulait plus retourner à Cognac. Dans la maison chez ses amis, elle s'isola dans une chambre et se mit à genoux. Elle demanda au Seigneur qu'elle puisse avoir un logement bien à elle, ce qu'elle n'avait jamais connu depuis qu'elle avait quitté sa nourrice, puisqu'elle dormait dans la chambre des enfants de ses patrons ou dans un couloir. Au mieux, dans les dortoirs comblés de solitude des foyers de la DAS. Elle désirait que cesse l'errance et qu'entre les murs d'un appartement, elle trouve un endroit où vivre. Alors elle dit au Seigneur, « Écoute, si tu me rends la vie, je pourrai travailler, avoir un logement, être chez moi. » Et un petit peu avant de se relever, elle ajouta, « Seigneur, tu es tout puissant aussi pour me donner un mari ?» Ces quelques mots se faisaient l'écho d'un souhait qui sommeillait dans le silence profond de son âme, et dont elle avait livré le secret désir dans cette prière confiante et spontanée. Mais elle le regretta immédiatement. « Qu'est-ce que j'ai été dire là ? Un mari ? Qui épouserait une aveugle ?